Marc, merci, bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être venu nous parler d'un sport qui a bercé notre enfance, le catch.
Oui, merci à votre radio aussi de m'inviter pour en parler.
Alors, comment c'est arrivé d'abord cette passion pour le catch, hein ? On va rappeler que vous êtes 8 fois champion du monde. C'est arrivé comment ?
Bah écoutez, moi je peux dire aujourd'hui à 50 ans, bien frappé, que je suis d'une ancienne époque quand même, c'est-à-dire que je suis de l'époque de transition des Langes Blancs bourreaux de Béthune et de moi Mercier. C'est-à-dire que je suis arrivé dans les années 70 dans ce métier uniquement parce que mon père, Guy Mercier, était un des catcheurs très connus en France et que j'étais attiré par ce métier. Très franchement, j'étais attiré par les métiers du spectacle. J'aurais pu faire chanteur, j'aurais fait chanteur. Mais comme j'étais bon en lutte, je me suis dirigé vers le catch, que mon père ne voulait pas d'ailleurs. Et puis j'ai eu cette chance inouïe d'être pris en main tout de suite, j'avais 16 ans et demi, par un grand monsieur du catch qui était un ancien catcheur et qui était le plus grand organisateur de l'époque, qui s'appelle Roger Delaporte, qui était propriétaire de l'Élysée Montmartre. Et il avait trouvé, lui, à l'époque, que j'avais un physique atypique par rapport au monde du catch, puisque j'étais grand, sec, musclé mais sec, et j'avais pas cette gueule cassée qu'avaient les catcheurs de l'époque, qui eux, bien sûr, avaient plusieurs années de catch dans les oreilles. Alors, lui, il a joué là-dessus, sur ce physique-là, et on s'est très vite aperçu que ça a marché. C'est-à-dire que ce qu'il a investi sur moi dans les années 70, ça s'est trouvé impeccable dans les années 80, puisque j'avais les médias derrière moi, je plaisais beaucoup et j'ai amené un autre public, si vous préférez. Donc voilà, j'ai connu toute cette époque de l'Élysée-Montmartre où j'ai laissé des kilos et des kilos de sueur.
Oui, c'était l'époque glorieuse hein, du catch.
Oui, alors c'était l'époque glorieuse, néanmoins c'était le début de la fin. Hein, ouais. Il faut savoir que fin 70, début 80, c'était le début de la fin. Le catch, si vous préférez, il y a eu, je dirais, 3 sessions, on va l'appeler comme ça, dans notre époque du catch contemporaine. Il y a eu la première époque de Glan, champion olympique de lutte, qui a ramené le catch des États-Unis. Où le catch aux États-Unis se jouait dans les caves, hein, un peu comme les combats de coq, voyez-vous. De Glan a ramené ça, mais le catch était un milieu très fermé, c'était plus de la lutte professionnelle qu'autre chose. Et d'ailleurs, la Fédération française de catch, que j'ai aujourd'hui, dont je suis le président, existait bien puisque c'était la FFL, Fédération française de lutte, qui avait fait un secteur professionnel avec le retour en France de Glan, avec le secteur professionnel qui était du catch et qui était géré par Paoli. Monsieur Paoli qui était le seul organisateur de catch. Donc, première époque, tout de suite après la guerre, le catch très sérieux, très dur, avec des gars comme Gilbert Leduc, De Glan, tous ces gens-là. Et ça a marché. Ça a marché parce que c'était un sport spectacle déjà, mais de grosse envergure, où les gars, c'était vraiment... Mais c'était très statique, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Il y a eu la deuxième session, donc deuxième période, où là, d'autres organisateurs de catch ont venu, des anciens lutteurs, des gens comme ça, mais plus businessmen que sportifs dans la tête. Et eux, ils ont dit, il y a une source à pognon là-dedans, donc nous allons créer des personnages. Là, la deuxième époque, ça a été le bourreau de Béthune, l'Ange Blanc, Duranton, Ben Chimoun, tous ces gens-là, le Petit Prince, etc. Là, on passait à un catch qui était plus un catch personnage, si vous préférez, qu'un catch vraiment, vraiment sérieux basé sur la lutte professionnelle. Néanmoins, ça restait quand même sérieux. Mais plus on allait dans le temps, plus les managers se sont aperçus que des mecs super costauds comme ça, qui sortaient des Jeux Olympiques pour faire du catch, il n'y en avait pas tellement, en fin de compte, et qu'il fallait en prendre un peu partout. Ils ont commencé à ouvrir les portes. Donc là, et je m'excuse parce que je vous ai dit Le Petit Prince tout à l'heure et Ben Chimoun, c'est là qu'est arrivé le début de la troisième session et troisième période avec les Ben Chimoun, Petit Prince et tout, qui avaient énormément de charisme, puisque aujourd'hui encore on en parle. Simplement, c'était plus du catch un peu rigolo, voyez-vous. C'était plus du tout le catch sérieux.
Ouais,
alors,
quoi.
Mais néanmoins, les médias étaient derrière, suivaient. De là sont sortis tous les grands journalistes ou tous les grands animateurs qu'on connaît.
Oui, Michel Drucker, Roland, Zitron, Robert Chapat, Roger Coudert, Daniel Casal, ils ont tous fait
catch. Et on en passe.
Ah ouais.
Et là, donc, ces gens-là gagnaient leur vie avec ça. Après, ils se sont dirigés sur d'autres secteurs, ils ont continué. Puis, à un moment donné, bah, y a eu un essoufflement. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Évidemment, vous aviez un manager qui avait l'ange blanc, mais autour, vous aviez 10 managers sur Paris. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, rien que sur la ville de Paris, il y avait 7 salles ouvertes par semaine de catch. Vous aviez 7 spectacles de catch par semaine, un par jour. Palais des Sports, Wagram, l'Élysée Montmartre, ouais. La Mutualité, le Veldiv, enfin, et j'en passe. Il y en avait d'autres, je ne les ai pas toutes en tête. Bon. Alors quand vous aviez, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Ange Blanc, qui est le plus connu, presque 30 ans après sa mort, on en parle encore, de Francisco Pino Fanera, dit l'Ange Blanc, c'était Maurice Durand, le matchmaker manager bien connu de l'époque, qui avait créé ce personnage, l'Ange Blanc. Simplement, les autres managers, eux, ils gagnaient moins de pognon, ils n'avaient pas l'Ange Blanc. Qu'est-ce qu'ils faisaient, d'après vous ? Eh bien, ils prenaient un lambda, ils le mettaient en l'Ange Blanc. Mmh. Ce qui veut dire que le soir, sur la chaîne, la seule et unique chaîne de télévision, vous aviez en direct du Palais des Sports de la Porte de Versailles l'Ange Blanc. Et dans votre ville de Rennes ou de Poitiers, vous aviez l'Ange Blanc. Ah ouais. Donc là, je crois que mes ancêtres matchmaker manager ont pris un peu les médias et le public pour des cons. À partir de là, effectivement, ça n'a plus très très bien marché. D'autre part, la vraie raison, vous me la posiez tout à l'heure et j'attendais d'être à l'antenne pour vous le dire. La vraie raison, c'est qu'il y a un monsieur qui est mon père, qui s'appelle Guy Mercier, associé à un autre lutteur de haut niveau, Michel Saunier, qu'on fait un statut social dans ce métier-là. Alors là, ça a été très dur, imaginez-vous. Que les catcheurs, c'était des gars qui étaient payés au cul du camion, qui gagnaient beaucoup d'argent, certes, mais payés au cul du camion sans assurance sociale. Mmh. Quand ils avaient un accident, c'était pour eux. Okay, il y avait des accidents graves, des ruptures de cervicales, des choses comme ça, des tétraplégies, paraplégies, etc. Bon. Et un jour, il s'est passé que le bourreau de Béthune vient décéder. Et mon père, quand il va à l'enterrement du bourreau de Béthune, il s'aperçoit qu'on voit le corps à travers les planches. Donc il dit, c'est pas possible. Un mec de cette valeur, l'enterrer comme un chien, c'est pas possible. Et là, mon père, qui est un ancien olympique de lutte, avec Michel Saunier, qui lui aussi était un très très bon lutteur amateur et très connu dans le catch, décide de faire une guerre à la mafia du catch, parce que c'est le terme. Hein, mm-hmm. Okay. Alors que eux sont des vedettes, ils arrêtent tout et ils lancent un truc social. Donc, à ce moment-là, une loi est signée, donc de 68 à 73, ils font une bataille à ces matchmaker managers. En 73, on signe une loi comme quoi les catcheurs, mais aussi les footballeurs, les boxeurs et les mannequins deviennent sous l'effigie du ministère de la Culture, donc intermittents du spectacle. Avec déclaration d'impôts, évidemment, fiche de paye d'intermittent du spectacle, par combat, une fiche de paye, un cachet, assurance sociale, congé spectacle, assédic, etc. Donc pour le catcheur, une grosse couverture et quelque chose de bien. D'ailleurs, mon père est aujourd'hui le président de la commission des retraites au Gris et à la Sécurité sociale, pour ceux ayant travaillé au noir avant 73, parce qu'eux, ils y étaient pour rien. Mmh. Vous comprenez ? Donc là, les médias, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père et Michel Saunier faisaient des référés aux télévisions qui faisaient passer des galas où les gars travaillaient au noir, ce qui était normal. Donc tout ça mélangé, cette arnaque avec les langes blancs, les faux langes blancs et compagnie, ce coup de pression venant de mon père, il faut le reconnaître, par rapport à ce bien social construit, et des référés à la télévision, ils en ont eu marre, ils sont passés à autre chose. Et puis, c'était aussi la grande époque du football, ça commençait à exploser, et du tennis, évidemment. Donc, ils sont passés à autre chose. Donc, voilà à peu près les trois sessions, ce que j'appelle sessions, donc les trois périodes du catch dans notre monde français. Et aujourd'hui, on rentre avec moi dans la quatrième.
C'est ça. Alors, vous êtes mis en tête de relancer carrément ce sport en France, hein, de diverses manières.
Oui, alors voilà, moi j'ai eu un grave accident donc en 1989 et j'ai arrêté ce métier, obligé. Mais j'étais catcheur, donc en 89 j'ai arrêté, j'étais la dernière vedette de Delaporte. Delaporte a arrêté, il a vendu l'Élysée Montmartre, il est parti, il a pris sa retraite. Et puis, je sais faire autre chose, mais il est vrai que c'est mon vrai métier et ma vraie passion surtout. Mmh. Donc, dans les années 2000, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, les gars qui... Déjà, premièrement, on se retrouvait dans le même système qu'avant. C'est-à-dire que mon père, j'irais plus rien. De la porte, il était vieux. Il n'y avait plus personne. Les autres, les truands, ils sont morts ou ils ont été déshabillés par l'État puisque forcément, des grosses amendes à payer. Et il y avait quelques mecs qui faisaient des gars de catch comme ça, une fois de plus, dans l'illégalité la plus totale. Alors là... Avec le phénomène américain sur nos chaînes françaises, évidemment, on parlait de catch. Et qu'est-ce qui se passait? Il y a des écoles qui poussent comme ça un peu partout dans la France, gérées par des mecs qui n'ont rien à voir avec le catch, ou alors par des escrocs. Avec des mômes qui se blessent, ils n'ont aucune couverture sociale. Moi, à partir de là, je suis revenu. J'ai dit, bon, ok, je vais me relancer dans ce truc-là. Donc déjà, moi, je me suis entraîné pour revenir, parce qu'il fallait, j'avais un nom à l'époque, étant champion du monde. J'ai dit, il faut que je reconquérisse un titre mondial. Donc j'avais plus 7 titres mondiaux en catégorie poids moyen et lourd léger. Il me fallait un titre poids lourd. Je me suis entraîné pour ça. Et j'ai repris le titre poids lourd en 2006. Donc là, j'ai fait le tour. Je suis open en titres mondiaux. Toutes catégories et fédérations confondues. À partir de là, j'ai dit, bon, maintenant, on va faire autre chose. Je vais créer un centre de formation. Non, une école, un centre de formation. C'est-à-dire que... Si vous préférez, si on prend le terme école, dans mon école ne viennent que ceux qui veulent devenir professionnels. Et non pas des jeunes qui veulent faire du loisir. Mmh. Ok.
Avec sélection, avec...
Alors, pas de sélection. Non.
Comment ça se
passe ? Entraînement direct. Je les entraîne. Ouais. Et au bout d'un mois, je vois s'il y a des capacités athlétiques et physiques...
Et mentales.
Ouais. Pour pouvoir faire ce métier. Alors, évidemment, moi, je suis très dur.
Oui, on l'a vu hein, dans la vidéo il y a, sur Internet.
Bien sûr.
Ça rigole pas.
bien sûr. Parce que figurez-vous que j'ai un côté social aussi dans mon histoire. Je m'explique. On a beaucoup, on s'aperçoit depuis 20 ans aujourd'hui, 25 ans aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont parqués dans ce qu'on appelle les cités et qu'il y a énormément de délinquance. Bon. Mais moi, je me suis aperçu au fil du temps que quand certains faisaient quelque chose pour eux qui les intéressait, il y avait une sortie pour ces jeunes. En l'occurrence, je vais citer Jamel Debbouze, qui a fait un truc pas mal. Il a gagné beaucoup d'argent, ce comédien-là. Il a réinvesti, il a fait Jamel Comédie. Il a sorti des mômes de cité qui étaient voués qu'à la délinquance, en fin de compte, et qui, en fin de compte, se retrouvent aujourd'hui à la télé en tant que comique. Donc ces gars-là brillent, ils ont un métier, ils gagnent de l'argent. Et ils payent des impôts. Au lieu d'être délinquant, c'est quand même mieux. Il y a eu le rap. Des années 80, on s'est aperçu que dans les cités, il y avait énormément de talents d'écriture. Quand on les entend parler, on dit « mais ils ne savent pas parler, ils ont leur langage à eux ». Eh bien non, ils savent parler, ils savent lire et écrire. Et la preuve, il y a des très beaux textes de fait. D'ailleurs, on a critiqué souvent Joey Starr. Mais Joey Starr, si vous prenez l'écriture de Joey Starr, vous verrez que dans certains textes, c'est une écriture sublime. Et il n'y a pas que de la méchanceté ni que de la haine dans ses propos. On va prendre une chanson, par exemple, « Laisse pas traîner ton fils », entre guillemets, de Joey Starr. Bon, il y a quand même un talent inouï. Après, il y a eu la période Bernard Tapie, quand il était ministre de la Ville, et qui a amené un peu le football là-dedans. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un calme. Ça se calmait dans les cités quand Tapie était avec le football, en amenant des stars du football et tout. Alors, je me suis dit, moi, ces jeunes qui se battent toute la journée, qui ont plein d'énergie à revendre, pourquoi pas les amener chez moi à la Catch Academy, les licencier à la Fédération Française de Catch et leur apprendre un métier en leur faisant comprendre qu'ils ont plus à gagner en étant un artiste de sport-spectacle qu'à être délinquant.
Mmh. Okay.
Finir sur un trottoir une balle dans la tête ou terminer en prison. Vous comprenez? Donc, moi, c'est ce côté social. Et je me suis aperçu que j'avais raison. Mais alors, là, vous me dites que je suis sévère. Là, si je suis pas sévère avec des mômes de cité, parce que les mômes, eux, ils sont pas encadrés. Hein. Le père, soit il est parti, ou soit il est là, mais il baisse les bras. Donc, si moi, je leur montre pas que je suis là, que je suis le grand frère ou le père, c'est terminé. Je me fais pisser dessus. Donc, à partir de là, je suis très dur avec eux, néanmoins très juste. Mmh. Et c'est là que j'ai décidé la tournée.
D'accord. Et alors, combien de personnes dans cette Catch Academy pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a combien de jeunes là?
Alors, on peut l'estimer à, entre ceux qui sont absents actuellement parce qu'ils sont malades ou ils sont blessés, on peut l'estimer à 120 adhérents aujourd'hui. J'en ai eu plus, simplement, il y en a qui ont décroché. Il y en a que j'ai viré, il y en a qui ont décroché.
Avec des entraînements tous les jours?
Alors, les entraînements, on peut les faire tous les jours. Actuellement, j'ai un gros problème d'organisation. On est en train de tout restructurer par nos sociétés. Je suis en tournée puisque je les emmène en tournée. Et là, je peux pas tous les jours. Donc actuellement, c'est le mercredi après-midi jusqu'en fin décembre. Et à partir de janvier, on va rouvrir le samedi, le mercredi, le soir pour les semi-pros et pros et le dimanche matin aussi pour les débutants.
D'accord. Donc la tournée, c'est 8, 9, 10 mois dans l'année ?
Alors voilà, la tournée, pareil. J'ai proposé à ces jeunes, parce que ces jeunes, faut bien leur dire, vous êtes, pas méchants, mais sévères avec eux, vous les faites transpirer, ils prennent quand même des coups, ils se font mal, et si vous leur amenez rien au bout, ils disent, non, merci, c'est pas bon ton truc, on voit rien venir. Donc, j'ai décidé d'appeler cette tournée la Catch Academy Tour, c'est-à-dire l'école de catch en tournée. Dedans, j'ai joint des professionnels. Qui eux sont payés en revanche. Ceux-là ne sont pas payés, les jeunes, mais les pros sont payés. Faire un mélange pour que les pros dirigent ces jeunes-là sur le ring. Et pour leur faire comprendre que j'étais juste, j'ai organisé une tournée. Simplement pour l'organiser. Aucune ville n'aurait acheté mon plateau, puisque j'ai voulu faire ça en show à l'américaine, ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc il m'a fallu acheter toute une technique, pont de lumière, sono, etc. Et bien entendu, les véhicules qui vont avec, dont un autocar 50 places avec toilette, télévision dedans. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et j'ai décidé de produire, parce que si je vendais un plateau, je l'aurais vendu tellement cher, au prix que ça me coûtait, que personne ne me l'aurait acheté. Donc il fallait faire reconnaître le catch avant de vendre. Et donc j'ai produit. Et donc, toutes les villes ont dit oui. Je les ai pas toutes prises, puisque j'ai 500 villes en portefeuille et j'ai pu en faire que 168, puisque je suis parti en février et je termine le 22 décembre à Vissous. Voilà. Donc, je suis parti avec ces jeunes en tournée.
D'accord. Les villes les plus prestigieuses sont lesquelles ? Où vous êtes
Alors, c'est pas des villes, ce sont des régions.
Ouais.
On va citer quelques régions qui sont vraiment fans de catch. Le Nord-Nord-Pas-de-Calais.
Ouais, ouais.
Ils ont toujours été vraiment un très bon public. La Bretagne. L'Est de la France. Aussi. Toute la région Alsace, Haut-Rhin, Bas-Rhin. Voilà, cette région-là. Maintenant, je m'aperçois qu'aujourd'hui, le catch qui était un spectacle pour le peuple, vraiment un spectacle populaire, et ben aujourd'hui, il y a une tendance quand même. Il y a une tendance. Et moi, je vois qu'en allant dans des villes entre guillemets riches ou bourgeoises, eh bien, je fais du monde aussi. Bizarrement.
Ouais, combien de personnes en moyenne comme public
Alors écoutez, c'est pas ce qu'on a connu à l'époque, les 5000 personnes ou 10 000 personnes de l'époque. Il faut être objectif. Si je fais une moyenne sur la tournée qui va toucher sa fin bientôt, donc il me reste une dizaine de galas, je dois être à une moyenne de 350-380 entrées par soir. C'est-à-dire, on s'est vu catcher devant 60 personnes. Mais on s'est vu aussi catcher devant un peu plus de 1000 personnes. Alors ça dépend des villes. Et puis il y a aussi un problème marketing, je ne peux pas tout gérer. Alors c'est nous qui faisons tout, l'affichage, on fait tout. J'ai une équipe d'affichage qui vient dans les villes avec des panneaux, mais on nous vole les panneaux. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, on est en train de travailler là-dessus, bien évidemment.
Avec des gens, avec des publics qui se piquent au jeu, parce que naturellement vous présentez ça sous forme de show à l'américaine, comme vous dites.
Exactement, et c'est ce qui est formidable dans le catch, c'est que le public fait partie du spectacle, fait réellement partie du spectacle. Les gens ont compris ce qu'était le catch aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, il y a 25 ans. Ils l'ont compris, ils savent que c'est un spectacle sportif.
C'est pas un sport, c'est plus un spectacle.
C'est pas, on peut pas dire que c'est un sport dans le sens où on fera jamais les Jeux Olympiques.
Oui, mais il y a une préparation physique, il y a des sportifs de niveau.
Si on parle de sport, on va parler de lutte. Un lutteur va faire les Jeux Olympiques. Bon. Le catch, non. C'est plus basé sur le show. Enfin, il faut avoir des qualités vraiment physiques. Faut être affûté, quoi. Et d'ailleurs, les mecs s'entraînent comme des sportifs de haut niveau.
Voilà, c'est ça.
Absolument, absolument. Absolument, c'est très dur sur un ring parce que...
Avec une notion de poids aussi.
Bien entendu, il y a des catégories, évidemment. Ouais. Alors, le gars qui veut rester dans sa catégorie, bien entendu, il fait des régimes pour rester dans sa catégorie, absolument, oui.
Est-ce qu'on gagne bien sa vie maintenant ? Parce que vous, à votre époque, vous l'avez bien gagné, votre vie, correctement, aujourd'hui
Largement correctement, à une époque. Largement correctement, mais là encore, c'est... Si on prend le catch, alors on va prendre le catch, on parle du catch en France actuellement, mm-hmm. parce qu'après, on va être complètement déconnecté si on se met à parler des Japonais, des Américains. Les Américains, c'est des millions de dollars à l'année, enfin c'est superstar, mais là on parle des États-Unis. Les États-Unis, c'est les États-Unis, nous sommes d'accord, tout est démesuré là-bas. Si on parle du catch en Europe, oui, alors le catch en Europe, à une époque, vous aviez les vedettes qui gagnaient beaucoup d'argent, vous aviez les moyens qui gagnaient moyennement leur vie et les petits qui gagnaient petitement leur vie. Comme dans la chanson, comme dans le cinéma, comme dans le football. Mmh. Voilà. Alors, la vedette, évidemment. Pourquoi la vedette? Parce que la vedette, elle amène du monde. Donc, la vedette a déjà un gros salaire et après, elle est à un pourcentage avec l'organisateur. Vous comprenez? Un pourcentage sur les entrées. Après, il y a des produits, merchandising, des produits vendus. Là aussi, elle touche. Des droits de diffusion où elle touche aussi. Aujourd'hui, on n'en est plus là, je vous le dis tout de suite. Les salaires sont minables, puisqu'on reprend tout à zéro. Mmh. Moi qui suis le patron, et qui catch encore aujourd'hui, je devrais être très bien payé, le mieux payé tout du moins. C'est ce qui était le cas avant, quand les patrons, les managers étaient catcheurs, c'est eux qui se rinçaient avant. Moi je suis le catcheur et le patron le moins payé du monde. C'est-à-dire que je gagne absolument rien, voyez-vous. Mmh. Bon, mais moi je repars dans ce métier-là. Aujourd'hui, ce que je vais vous donner, si vous voulez le savoir, j'ai pas de tabou là-dessus. Aujourd'hui, un catcheur, un bon catcheur va gagner 150 euros. Ce qui est déplorable quand même. 150 euros par gala. Ce qui est déplorable. Bon, alors là, je suis en train de tout recycler.
Donc, il lui faut une deuxième activité en parallèle, quoi.
Alors, oui, mais aujourd'hui, ce sont des jeunes, ils n'ont pas d'activité du tout. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Alors, mais là, on est en train de changer. On vient de monter une société de production, ok. Cette tournée a fait que j'ai énormément de financiers qui viennent, donc des sponsors, on peut appeler ça comme ça. Et à partir de là, je veux, parce que je monte un syndicat aussi, par rapport au catch, le syndicat des catcheurs professionnels et amateurs.
Ouais, comme pour beaucoup de sports professionnels.
Hein, oui, mais pour défendre mon métier et protéger mes mômes. Protéger mes
footballeurs, les cyclistes ont leur syndicat.
Et là, je demande un tarif syndical minimum de 600 euros par gala pour mes catcheurs. Mmh. Alors, 600 euros, c'est le tarif syndical si on prend sur le cinéma, sur la chanson, sur... Enfin, voilà. C'est le tarif... Alors là, les gars commencent à gagner de l'argent parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, les salaires hein, en France sont pas énormes. 600 euros, le gars a 3 galas par semaine. Voyez. Bon. Et après, il a droit aux acédiques puisque moi, je dois lui amener au moins 52 galas par an, ce qui fait qu'après, il a ses acédiques. D'accord. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est le tarif syndical. C'est ce à quoi je veux arriver. Ensuite, évidemment, j'en ai un franco-algérien. Bon, il est français, mais d'origine algérienne, qui sera une superstar. Mmh. Il s'appelle Driss Jafali. Ce garçon-là, je pense qu'il gagnera des millions dans les 10 ans à venir.
À condition de quitter la France ?
Alors... Mes meilleurs vont forcément quitter la France, puisque je vais faire des échanges avec les fédérations étrangères, évidemment, déjà pour moi, pour avoir des étrangers dans mes prochains tours, et puis pour que mes jeunes aillent travailler, aillent apprendre un autre catch à l'étranger et se fassent connaître à l'étranger. Mais un bon catcheur demain gagnera très bien sa vie, effectivement.
D'accord, donc c'est un sport qui va redémarrer, quoi, et les médias qui, à nouveau, s'y intéressent de plus en plus, hein, parce que
alors, vraiment,
vous êtes avec nous ce matin, mais vous avez répondu à un tas d'interviews tout au long de la semaine, hein,
que ce soit oui, sur TF1, tout à fait.
France Télévisions, chez Coé, partout. Hein.
Tout à fait. Partout. Je pense que les médias, aujourd'hui, s'intéressent. Alors, j'y suis aussi pour quelque chose.
Ouais, c'est un signe, ça. Hein.
J'y suis pour quelque chose. Si vous préférez, la tournée que j'ai faite, et je vous en parle, je vous dis vraiment sans tabou, la tournée que j'ai faite, j'ai perdu à peu près, en moyenne, 1000 euros par jour. Mmh. Puisque mon point mort était de 500 personnes. Donc je faisais jamais 500 personnes de moyenne. Puisque
oui, parce qu'on va préciser aussi que vous allez dans les villages de 1000 habitants. Hein.
Ah oui, 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 moi je sais pas. Ouais. Je suis pas un artiste qui fait de la ségrégation sur les villages de France. Mmh. Parce qu'on parle beaucoup de la France profonde, mais personne veut y aller. Tout le monde veut faire Bercy et le Zénith, et personne veut aller donner son talent dans les petites villes. Moi je veux y aller, et je suis comme un chef d'entreprise en disant « Eh ben, je perds du pognon dans une petite ville, mais je vais rencontrer les gens et je gagne du pognon sur les grosses villes. » Bon, ce qui n'a pas été le cas cette année, puisque je vous dis, à 1000 euros en moyenne par jour de perte, je suis à 170 000 euros de perte que ça m'aura coûté. Néanmoins, il faut être honnête, cette tournée m'a amené une publicité que je n'aurais pas pu me payer sur les gros médias. TF1, France 2, etc. Toutes ces chaînes de télévision, la publicité est très chère. Parce qu'à force de voir mes véhicules tourner dans toute la France à travers 93 départements, à force de nous voir tous les jours dans les journaux régionaux, puisqu'on est toujours dans les journaux régionaux, en fin de compte, les gros médias se sont servis. Puis j'ai quand même fait descendre un Américain qui est la superstar de mon spectacle, Grotte Caroli. Bon, là, ça me coûte cher aussi, mais j'ai quand même une vedette américaine qui est dans mon tour.
Il n'y a pas d'autres catcheurs qui ont envie de faire comme vous, qui ont lancé une tournée parallèle?
Alors,
Parce qu'on voit sur le site internet, on voit que d'autres proposent aussi des spectacles.
Voilà, alors le souci, là aussi, et il faut être honnête, eux n'ont pas eu les moyens que j'ai eus au départ, financiers, pour démarrer tout ça. Il fallait avoir les moyens financiers. Bon. Moi, j'ai fait une ouverture dans mon métier en disant, voilà, je mets tout le monde dans la légalité, tout le monde est dans l'illégalité. Je mets tout le monde dans la légalité, ceux qui veulent me suivre, me suivent. J'ouvre. On fait un syndicat, vous vous syndiquez tous. Vous, vos élèves, vos catcheurs, tout le monde est syndiqué là-dedans. Alors, j'en ai plusieurs qui ont répondu oui et qui se sont mis avec moi. Donc, l'avantage qu'ils ont, c'est que moi, c'est de moi dont on parle le plus actuellement. Donc, ils ont du travail sans trop s'ennuyer, mais ils restent maîtres de chez eux, de leur structure. Par exemple, je vais vous parler, j'ai un gars qui est Pierre Booster Fontaine, qui est dans le Nord, qui est à Lille, qui est un garçon très sérieux, un bon catcheur en plus, assez connu, et qui lui a une petite structure, mais qui joue plus sur le catch américain, voyez-vous, mais qui a un public, il a des fans, il y a RTL9, des forums comme ça, où on parle beaucoup de catch américain, parce qu'il y a vraiment une tendance, et où ce Pierre Booster Fontaine est fait des galas à thème, avec des noms d'affiches, tout ça. Bon. Ce gars-là, j'ai discuté avec lui, qui était un concurrent à moi, en fin de compte. On a discuté ensemble, on est tombé d'accord, et ce gars-là travaille avec moi. C'est-à-dire que lui, il a des gars-là, par exemple, il en a un demain, dans l'Est de la France, à Saint-Avold, je crois. Il prend des gars à moi. Et moi, je le prends, et je prends ces gars à lui. Moi, en revanche, je lui fais des fiches de paye, avec, bien entendu, le syndicat et la couverture sociale. Et lui aussi va y venir. Bon, pour l'instant, lui, il a le droit. Il est dans la légalité parce que je crois qu'il travaille sur l'association. Je crois que c'est 6 à 8 galas par an avec une extension de 2 galas. Disons une dizaine de galas détaxés. Donc, il a le droit de le faire. Bon, il y en a un autre qui est à Beauvais, qui s'appelle Olivier Grillon, qui est le président de la BCA de Beauvais. Donc, pareil, club de catch, école sérieuse, old school, à l'ancienne. Lui, comme moi, plutôt dans ma direction, pareil, qui s'est greffé à moi. Donc lui, pareil, il travaille avec moi. Voyez, moi, j'essaye de réunir tout le monde pour que notre métier prenne forme, et je dois le reconnaître, soyons francs, faire une concurrence dans mon pays aux Américains.
D'accord. De toute façon, c'est un investissement sur long terme.
C'est un investissement sur long terme, et je pense que quand je serai plus là, le catch continuera parce que j'aurai redonné ce qu'on m'a donné. Il faut redonner aussi dans la vie. Moi, on m'a beaucoup donné quand même. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis un catcheur qui a eu de la chance. J'avais un père qui était catcheur, qui était connu, qui a monté les statuts sociaux. Donc, je suis en plein dans la soupe. Moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, tout le monde, ça fait 50 ans que je suis là-dedans. J'ai tout vu. J'ai vu les plus grands chez moi. Et puis, j'ai eu Roger Delaporte, qui était derrière moi, qui a financé derrière moi, alors que j'étais tout jeune. Donc, j'ai eu une chance inouïe. J'ai pu aller aux États-Unis. J'ai pu voyager dans le monde entier par mon métier et ne vivre que de ça, ce qui est quand même extraordinaire quand on peut vivre de sa passion.
Bien sûr. Entre vous, vous revoyez entre anciens champions, entre anciens grands catcheurs. Vous avez encore des rapports?
Il y en a beaucoup qui sont morts, malheureusement. Il y en a qui sont gâteux. Et puis, j'en vois. Alors, il y a une réunion tous les ans qui s'appelle la réunion des anciens. Alors, c'est au bateau Mouche à Paris. Voilà, tout le monde peut se rencontrer, évidemment, de ce qui reste, évidemment. Oui.
Ouais. Donc, vous êtes aussi président de la Fédération française de catch professionnel.
Oui, hein, que j'ai reprise à Roger Delaporte.
Quelles sont aussi vos actions en faveur des clubs? Est-ce qu'il y a des clubs de catch qui se montent un peu partout en France?
Alors, mon objectif. C'est justement, alors voilà, parce que là, ça fait quand même que un an et demi que je suis reparti avec tout ça. Donc, Paris ne s'est pas fait en un jour. Dans les, disons, 5 ans à venir, il y aura un gros centre de formation par région.
D'accord, oui. Donc
un gros centre de formation par région, géré par la FFCP, et certainement géré par la ICWA, qui est maintenant celui qui était, je vous disais, mon concurrent de l'époque, qui est aujourd'hui mon allié et mon associé, qui lui a un club et une école dans l'est, dans le nord de la France, à Lille, à l'Aventie exactement, et on va gérer ça tous les deux, on va essayer d'ouvrir des écoles dans toutes les régions de France.
D'accord, donc pour les jeunes ce matin qui voudraient faire ce sport, qu'est-ce que vous leur conseillez? D'abord beaucoup de travail, il faut commencer par un sport comme la lutte?
Non. Je leur conseille déjà de me contacter, oui. Hein, donc ils vont sur mon site ffcatch.com où ils font Catch Academy, ou ouais, Marc ouais. Mercier, il y a des liens partout. Ils me téléphonent, ou ils téléphonent à quelqu'un de mon staff, ils prennent rendez-vous, ils viennent à l'entraînement. Survêtement, basket, ça suffit. Ok, ils amènent pas d'argent, ils amènent rien, c'est pas la peine de payer au départ. Ils viennent, ils s'entraînent, on fait des essais. On voit si ça leur plaît. Alors ensuite, je leur donne les conseils par rapport à leur physique, évidemment. De surentraînement en dehors de l'entraînement que je leur donne, bien évidemment.
Bien sûr. Une carrière, ça dure combien de temps, Marc?
Oh là là.
Ça peut durer très longtemps.
Alors là, ouais. Alors là, vous me posez une question, je suis très embarrassé. Il y a des carrières qui durent 6 mois, il y a des carrières qui durent 10 ans, il y en a d'autres qui durent 30 ans, ce qui est mon cas. C'est rare, c'est exceptionnel, avec les blessures que j'ai eues en plus. Ça dépend. Mais le catch aussi est ainsi fait qu'on peut aller plus vieux. Parce que quand on est plus vieux dans le catch, généralement, on est en poids lourd. Le poids lourd catch moins rapidement que le poids léger. Moi, j'ai commencé en poids moyen. Hein. J'étais affûté. Hein. Aujourd'hui, je fais 109 kilos. C'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, 109 kilos, c'est plus lourd à traîner sur un ring. Donc, c'est moins rapide. C'est plus les combinaisons qu'on fait quand on a 20 ans, évidemment. Donc, on peut aller assez loin. Mais, puis aujourd'hui, on se nourrit plus comme avant. On a une vie beaucoup plus saine. On reste sportif beaucoup plus longtemps aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit dans tous les sports. Hein. Ouais. Football, boxe, partout. Les mecs vont de plus en plus loin. Hein.
Il y a des compétitions officielles, championnat de France, championnat d'Europe, championnat
oui,
de
alors
ça
là,
se passe
c'est
comment,
pas,
ça se passe ça, comment pour le grand public?
Alors ça c'est par fédération, ouais. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, bien entendu ce sont les meilleurs ou les tenants de titres qui en rencontrent d'autres fédérations, ou voire dans la même fédération. Bon, alors là, généralement, que le meilleur gagne, voilà, et généralement, c'est le meilleur qui gagne. Alors après, ça se termine en lutte, quoi, voilà. Il y a toujours ce côté spectacle, parce que les mecs sont des businessmen, hein. Moi, je dis le catch, hein. Pour être catcheur, il faut être 50% sportif, 50% comédien et 100% showman. Hein, voilà, vous avez tout compris, voilà. À partir de là.
Est-ce que c'est un sport réellement dangereux pour les parents qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut considérer ce sport comme un sport à risque?
Oui, alors je crois que si on parle de ça, c'est celui qui est le plus dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez à la boxe, j'ai été dans des clubs de boxe il n'y a pas longtemps, voir des entraînements de jeunes, ils ont tous des casques, ils ont des gants d'un certain poids qui font pas mal avec des casques. Le catch, il n'y a pas de protection. Et le problème, c'est qu'un ring, c'est un plancher avec une légère couche de sorbetane dessus et une bâche. Alors évidemment, vous avez un ressort central en dessous du ring pour amortir les chocs. Le problème, si vous tombez sur le cul, vous vous pétez une vertèbre, vous écrasez la queue de cheval, compression de la moelle épinière. Si vous tombez sur le cou, vous vous pétez les cervicales. Donc il y a des procédures de sécurité à respecter, ce que je fais, rentrer la tête, claquer les bras, relever le cul. Bon, tout ça, je le dis pendant l'entraînement, je le répète 1000 fois à chaque coup. On a des techniques justement
ouais, pour tomber,
éviter les accidents.
À tomber,
maintenant,
ouais.
Si un môme, ce qui s'est passé, le phénomène aux États-Unis, et c'est pour ça que je vais voir pour faire voter une loi à un moment donné, parce que tout le monde va ouvrir, comme le catch va repartir, tout le monde va ouvrir des écoles, et ce ne sera pas des professionnels qui vont entraîner les mômes, mais là, on peut être paralysé à 13 ou 14 ans. Et là, il faut vraiment avoir le matériel de sécurité autour et avoir des gars qui encadrent bien. Oui, c'est très dangereux. Un môme qui fait ça dans son jardin, c'est très risqué.
Oui, donc, très faut
risqué.
Le faire avec précaution,
très risqué.
Éducateur sage, raisonnable.
Ah, évidemment. C'est comme les Yamakasi. Si vous voyez les Yamakasi, c'est des mecs qui sont super entraînés, qui sautent d'un toit à l'autre. Maintenant, un môme, il voit ça, il veut sauter d'un toit à l'autre, il n'ira pas. Il va tomber au milieu. Donc, il faut faire très attention.
Est-ce que il y a déjà des jeunes qui ont des surnoms chez vous? Et d'où viennent ces surnoms? Parce que ça aussi, ça faisait partie un peu du mythe du catch.
Oui, alors là, ça a changé. Avant, c'était plus basé sur les personnages. C'est-à-dire, on avait des noms comme l'Ange Blanc, le Bourreau de Béthune, c'était des personnages. Et c'était les matchmakers, managers qui géraient ça. Aujourd'hui, c'est différent. Les mômes vont tous sur les forums. Alors, ils ont ce qu'on appelle des identifiants, quoi. Voilà. Par exemple, j'en ai un qui est un très bon, qui s'appelle Dimitri Soliotopoulos. C'est un franco-grec, ouais. Mais son nom d'identifiant sur les forums, c'est Rosto. Alors du coup, on l'appelle Dimitri Rosto Soliotopoulos. Vous voyez, là peut venir aussi, cet identifiant peut devenir un nom.
D'accord. Marc, on va rappeler quand même où vous allez en tournée dans les prochaines semaines. Et puis, rappeler que pour ceux de la région, ils peuvent vous voir sur Vissou. C'est le 22 décembre prochain.
Ouais, alors là, c'est... Hein pardon, c'est une grande, grande fête, puisque c'est déjà, c'est ma ville. C'est de là que est parti, la Catch Academy, la Fédération Française de Catch, à Vissou, dans l'Essonne, à côté d'Antony, très proche de la porte d'Orléans.
Orly, à côté.
Orly, juste derrière les pistes d'Orly. Alors là, ça va être le dernier jour de la tournée 2007. Sinon, on est samedi à Loris, dans le 45.
Dans le Loiret.
Dans le Loiret. Ensuite, on est à Moreuil, dans la Somme, le week-end d'après. Rouffach, dans l'Est de la France. Troyes, la ville de Troyes, et puis on termine par Vissou, quoi. Une ou deux que j'ai oubliées, puis on termine par Vissou.
Alors, on va dire qu'il y a aussi des élus qui sont avec vous, qui vous soutiennent dans cette démarche, dans cette opération. Hein.
Oui, oui. Alors, j'ai déjà, évidemment, mon maire, Richard Trinquier, qui est le maire de Vissou, qui est un homme qui m'a énormément aidé. Et en discutant avec des politiques, des amis politiques à lui, ces gens-là ont discuté avec moi sur cette notion, justement, sociale, qui les intéresse énormément. De savoir si moi, je serais d'accord à aller dans des cités entraîner des jeunes. Moi, j'ai dit oui, j'ai dit ok, vous me mettez les salles et les assurances à disposition, je vais les entraîner, et les élites, les meilleurs, je les ramène à la Catch Academy. Je ferai un casting directement dans les cités, d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, pour les jeunes, évidemment que ça intéresse.
D'accord, ok. Et puis on espère vous revoir un jour sur Rambouillet ou sur Poigny, ou sur le Perret ou dans la région. Hein.
Évidemment, et il ne faut pas oublier que c'était une région à catch aussi à l'époque. Oui, bien sûr, on l'a fait Rambouillet avec Roger Delaporte.
Très bien, merci Marc.
Et puis, je vous en prie.
Bon retour, et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup Marc.
Merci, au revoir.
Voilà, ça c'était donc Marc Mercier qui était venu dans nos studios le dimanche 25 novembre et vous aviez été très très nombreux à nous redemander la rediffusion donc de cette interview. Donc comme Gérard Vandistade ce matin n'a pu venir, hein, nous a appelé, il est donc grippé, on vous a donc rediffusé l'interview de Marc Mercier et en plus c'est d'actualité puisque de toute façon il finira sa tournée samedi prochain, donc samedi 22 décembre du côté de Vissou. Alors j'ai dit autre thème abordé ce matin, on va parler de l'opération Andy Chien, hein, organisée par la section basket de Rambouillet, emmenée par donc Bertrand Zeneguido, que je suis content donc d'accueillir. Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est le rugby puis le basket, Bertrand, c'est ça, hein,
vous... on essaie d'impliquer toutes les sections sportives de Rambouillet. Bon, moi, il se trouve que je suis un peu à la croisée des sports. J'ai mon fils au basket, ma fille à la GRS, je suis gardien du gymnase de la Louvière.
C'est bien.
voilà, on a eu l'idée d'associer toutes les sections sportives de Rambouillet et bon, on compte sur eux, ils nous donnent un sacré coup de main sur ce projet.
Très bien, alors vous, votre passé sportif, le rugby, le basket, hein, c'est ça avant
oui,
tout c'est
enfin, le sport judo de... dans ma
le
jeunesse,
judo,
le rugby, le foot, quand je suis arrivé à Rambouillet, donc ça a été le rugby pendant 15 bonnes années. Voilà, ça c'est une petite carrière, une toute petite carrière.
C'est pas grave, l'essentiel c'est d'être un fondu et un amoureux du sport. Hein. Alors on va reparler naturellement, je l'ai dit, de cette opération. Avant, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé la semaine dernière sur le Téléthon. On en a beaucoup parlé sur l'antenne d'Herveux, hein, puisqu'on vous avait offert donc toute une série d'interviews vendredi soir et samedi toute la journée, une grande émission de 3 heures la semaine dernière. On voulait quand même revenir sur le classement de l'Origol. On a vu Jacques Poligny qui nous avait commenté à Chauge, j'allais dire, l'arrivée et le déroulement de ce trail de nuit sur le Perret qui avait été un des temps forts donc de ce Téléthon 2007. Donc le classement détaillé dans les 71 km, la victoire elle est revenue à Johan Kopman d'Épernay, 7h30min02, deuxième donc Benjamin Galland individuel, 7h30min02, donc vous voyez ils sont arrivés vraiment au coude à coude les deux trailers, et troisième donc Étienne Blay Marc d'Épernay, 7 7h31 et 31 secondes. Il n'y a que 63 donc coureurs qui ont fini l'épreuve sur 300 donc au départ, c'est-à-dire que les mauvaises conditions météo ont rendu encore beaucoup plus sélectif et difficile donc cette édition 2007. Et puis pour les 25 km, eh bien c'est un coureur de l'AS Air France, Arnaud Kranz, qui s'est imposé 2h05 et 39 secondes devant Stéphane Mort donc de l'AC Talent, 2h05 et 40 secondes. Donc là aussi il y a une petite seconde d'écart, ça a été vraiment une arrivée très serrée. Et troisième donc Noël Parmentier, Red Aventure, 2h07 et 47 secondes. Voilà, donc c'était du côté du Perret en Yvelines à l'occasion de cette épreuve hein, de Trail Lorigol, qui est maintenant, je dirais, un des grands événements sportifs de l'année en matière de sport du côté du Perret. Alors le premier grand événement sportif de l'année sur Rambouillet, ça va être justement Bertrand, et eh bien le 2 février prochain, on l'a dit, au gymnase du Racinet, c'est ça hein,
c'est ça oui
hein, avec donc la section basket de Rambouillet entre autres, et puis d'autres clubs de Rambouillet sportifs. Comment est venue d'abord cette idée?
D'abord parce que nous sommes famille d'accueil pour l'association Andy Chien, c'est-à-dire qu'on nous confie un chiot de 2 mois et demi jusqu'à ses 18 mois.
Alors il y a un autre amour là-dedans aussi, c'est l'amour des animaux.
L'amour des animaux, ça oui. Oui.
Depuis, c'est bien, c'est Noël.
Moi j'ai grandi avec des chiens, donc ce sont des animaux que j'apprécie beaucoup. Donc l'idée est venue parce que mon deuxième chien était parrainé par une personne handicapée. C'est-à-dire qu'une personne qui avait reçu un chien de l'association, qui avait trouvé ça tellement super qu'elle a vendu des gâteaux avec sa mère, enfin elle a organisé diverses manifestations pour financer un chien de l'association. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas organiser une manifestation sportive et pourquoi pas solliciter le handicap pour venir en aide aux handicapés eux-mêmes. Donc on s'est dit tiens, pourquoi ne pas organiser un match handi-basket. Donc on a contacté Daniel Blanchet qui nous a trouvé une équipe de très bon niveau de Paris qui va venir faire un match exhibition. Et puis on a développé l'idée donc autour du sport, et donc on a décidé de s'appuyer sur les sections sportives de la ville pour tout ce qui est promotion, distribution de nos billets d'entrée et vente de billets de tombola pour essayer de réunir les fonds nécessaires pour financer nous un chien de l'association.
Alors je l'ai dit, c'est le basket, le rugby, mais d'autres sections de Rambouillet hein. c'est
oui, oui.
Vous avez, lorsque vous avez été frappé aux portes, il n'y a pas eu de refus quoi.
Aucun. Voilà, je pense qu'il ne faut pas l'attribuer spécifiquement ni au rugby ni au basket, c'est vraiment toutes les sections qui ont répondu présent, le hand, le volley, le judo, le taekwondo.
Non mais Christian Badet qui avait été notre invité au début du mois de novembre nous avait déjà parlé de cette opération
hein. Oui, bon, c'est une des premières sections que nous avons contactées puisque donc, c'est un match handi basket. Mon fils était en basket, donc naturellement on leur a posé la question, mais on l'a posé à tous les présidents qui nous ont très très bien reçus, quels qu'ils soient.
Et ça va permettre à nouveau hein, d'être et de soutenir l'handisport. Hein. On se rappelle qu'il y avait eu un grand match de basket handisport il y a une bonne quinzaine d'années sur Rambouillet au gymnase du Racinet. On avait été assez fortement impressionné, donc ça va permettre une nouvelle fois eh bien, d'être soutien pour l'handisport.
Hein. Et en l'occurrence, c'est aussi eux qui vont nous soutenir.
Oui.
Mais je crois que en plus, c'est un spectacle qui mérite d'être vu. Et c'est une très bonne sensibilisation au problème du handicap. De voir, enfin, je veux dire, puis c'est encourageant de voir que ces gars-là peuvent être motivés par le sport et être des athlètes de haut niveau.
Oui, parce qu'on en parle toujours, mais on est toujours tous un peu étonnés par la performance du monde handisport. Hein.
Je crois qu'ils ont
déjà vraiment des performances qui sont parfois dignes des valides.
Hein. Dignes ou supérieures, parce que ils développent du coup une volonté qui pourrait servir d'exemple à beaucoup de valides. Quoi.
Alors, ça va se passer comment? D'abord, quels sont les chiens qui vont, la race et les types de chiens qui vont être des chiens d'assistance? Il y a une race particulière?
Il y a deux races, donc c'est deux cousins, les Golden et les Retrievers et les Labrador.
D'accord, il n'y a que ces chiens-là quoi.
Ils ont fait des essais avec des Nova Scotia, une troisième race, mais ça reste marginal. Ils sont en train de tester un peu, voir ce que ça donne au niveau des résultats. Mais essentiellement, non, ce sont des Golden et Retrievers et des Labrador. Donc des Retrievers qui par nature, aiment bien rapporter des objets. Donc ils seront capables de ramasser une télécommande qui est tombée, un paquet de mouchoirs. Donc on leur demande beaucoup de travail de rapport. mais également beaucoup d'autres choses.
Donc ce sont des chiens qui sont spécialement préparés pour ça. Dès le plus jeune âge, on prend ses chevaux et puis on les prépare à devenir des chiens d'assistance.
L'association donc travaille avec des éleveurs et parmi les portées, teste déjà les chiots. Il y a toute une batterie de tests pour déterminer déjà lesquels seraient les plus appropriés, les plus adaptés à ce travail. Ensuite, il y a tout un travail donc au niveau de la famille d'accueil qui elle doit assister à des cours tous les 15 jours. Sous le contrôle d'un éducateur de l'association.
Donc c'est votre cas ?
C'est mon cas, moi je me fais régulièrement remonter les bretelles quand je ne fais pas bien travailler mon chien. Et ce jusqu'à ses 18 mois. Et ensuite, à l'issue de ces 18 mois, le chien intègre un centre de l'association, il y en a 4 en France, pour une période de 6 mois. Et là où il va travailler plus spécifiquement tout le côté fauteuil et handicap. Et à l'issue de cette formation, les personnes handicapées qui ont fait une demande de chien vont venir au centre, faire un stage également elles-mêmes, pour apprendre à bien s'occuper du chien, détecter les problèmes qu'il peut avoir, le soigner, etc. Et à l'issue de ce stage de 15 jours, elles repartiront avec leur chien qui est remis gracieusement par l'association.
D'accord. Et la formation se passe somme toute bien. Il n'y a pas des chiens qui sont réticents, réfractaires finalement
Réfractaires non, parce qu'ils aiment tous travailler. En plus, ce sont des chiens très gourmands.
Oui,
donc,
c'est facile de les récompenser.
Voilà, ça marche beaucoup à la carotte. mais il y a quand même quelques échecs. Il y a un taux de réforme qui est assez important. D'une part, parce que l'association est très exigeante sur la qualité du chien, et puis il y a aussi des problèmes physiques qui peuvent survenir comme la dysplasie donc il y a quand même des chiens qui sont réformés qui ne vont pas au bout du programme.
Ouais, et la durée moyenne d'un chien d'assistance c'est de combien?
En général il travaille jusqu'à ses 10-11 ans.
Ouais, après il prend sa retraite,
ensuite
il est mis à la retraite tranquille.
Ouais. Moi c'est pas une corvée pour eux. C'est des chiens qui aiment travailler, donc ils le font de très bonne volonté. Quoi.
Alors, pour le grand public, ça va se passer comment? Quel va être le programme de la soirée? Donc, il va y avoir ce match handi basket, c'est
donc
ça?
Donc, il va y avoir ce match exhibition de handi basket.
Qui va poser qui à qui?
C'est le club de Paris qui va venir faire un match exhibition, donc ça va être que les gens de ce team-là. Quoi. Ensuite, à la mi-temps, il y aura une présentation de l'association et une démonstration du travail des chiens. Ça, c'est intéressant à voir, je crois aussi. La deuxième mi-temps, ensuite, nous procéderons au tirage au sort de la tombola.
Oui.
Et nous finirons par un match de basket de la première qui sera opposé de basket du club de Rambouillet qui sera opposé à Marly ce jour-là.
D'accord. Alors, naturellement, le match de basket en e-sport. Donc, les chiens d'assistance, quel va être leur rôle? Vous pouvez un peu nous le détailler. Ça va se passer comment?
Le jour de la manifestation?
Oui, c'est-à-dire, il y a un match entre eux, mais c'est quoi le rôle exactement sur le terrain d'un chien d'assistance?
Alors, le chien ne sera pas sur le terrain,
je me dois de jouer les...
On fera une démonstration donc à la mi-temps du travail des chiens, c'est-à-dire qu'on montrera que ces chiens seront capables d'ouvrir un placard, d'aller chercher un objet quand on leur demande. On va essayer
mais eux, dans le match, ils n'interviennent pas.
Ah non, pas du tout.
Je le sais, mais je me dois pour le grand public quand même de jouer les candides.
Et là, ils seront spectateurs.
Alors, donc, le but recherché de cette manifestation, on sait, c'est naturellement de récolter un peu de fonds.
Voilà, c'est de récolter des fonds. Donc, nous, on avance le chiffre de 12 000 euros. C'est le coût de l'achat et de la formation de chaîne d'assistance. Ces 12 000 euros, ça correspond à quoi? C'est le budget de fonctionnement de l'association divisé par le nombre de chiens qui sont remis chaque année. Et on arrive à ce chiffre important donc de 12 000 euros, puisqu'on tient aussi compte dans ce montant des chiens réformés, par exemple, et des frais de fonctionnement de l'association, etc. Il faut préciser aussi qu'au niveau des familles d'accueil, tout ce qui est nourriture est pris en charge par l'association, c'est-à-dire que les familles d'accueil n'ont pas de frais à ce niveau-là, et tout ce qui est frais de vétérinaire, bien évidemment.
Oui, parce qu'il paraît que ça mange beaucoup quand même. Hein. C'est un bon appétit,
C'est un bon appétit, mais on nous demande de pas trop les nourrir, et là aussi ils sont assez vigilants sur le poids des chiens.
Oui, ah oui, d'accord, ils sont obligés de contrôler aussi le poids des chiens.
Oui, c'est-à-dire que si le chien a tendance à prendre l'embonpoint, on nous fait comprendre qu'il va falloir diminuer un peu les rations.
D'accord. Donc, il y aura une entrée payante.
Donc, il y aura une entrée payante. On a fixé un prix de 5 euros pour les adultes et de 3 euros pour les moins de 18 ans. Mmh. Et on espère faire exploser le raciné, quoi.
À ce jour, on connaît déjà le nombre de spectateurs.
On espère.
Parce que les gens peuvent quand même, je crois, aller s'inscrire à différents endroits. Il y a des sites.
Voilà. Donc nous, on a organisé notre distribution. Donc d'abord autour des sections sportives. Ouais, il y aura également. On est en train de voir avec l'office de tourisme de Rambouillet.
Ils peuvent aller.
Il y a certains commerçants qui vont nous donner un coup de main. Le cinéma de Rambouillet, les vétérinaires. On a contacté les vétérinaires de Rambouillet qui vont faire aussi un point de point de vente. Donc il y a beaucoup de possibilités pour les gens qui sont intéressés pour nous rejoindre. Même au gymnase de la Louvière, ils peuvent venir me trouver sans problème s'ils sont intéressés.
Allez, on s'est donné un petit défi. On en a beaucoup parlé la semaine dernière avec le Téléthon, des défis sur le plan sportif et financier. Est-ce que là, on s'est donné un défi à atteindre au niveau entrée? On serait content si, par exemple, il y avait combien d'entrées
Le défi final, c'est donc de réunir ces 12 000 euros.
Voilà, c'est ça.
On compte remplir la salle, donc atteindre pas loin de 400 spectateurs. Mm-hmm. Et puis surtout, on espère vendre tous nos billets de tombola, que les gens réserveront un bon accueil à nos petits vendeurs pour atteindre ce montant-là. On a aussi contacté le Rotary, le Lyons. On espère que tout le monde va nous donner un petit coup de main. Et plus on sera nombreux, plus ce petit effort sera minime.
Et là, nous sommes à 6 semaines de l'événement. Tout est fin prêt ou il y a encore des choses à finaliser?
Il y a encore des choses à finaliser. On a aussi sollicité les étudiants de l'IUT Action Commerciale de Rambouillet pour nous donner un coup de main. Il y a encore quelques détails à peaufiner. On aimerait aussi trouver une banda pour venir un peu animer la soirée. Donc s'il y a des musiciens qui nous écoutent, on est preneurs. Il y a encore quelques petits détails à régler, mais le fond du programme est prêt.
Vous êtes combien à travailler sur ce projet, sur cette soirée? Je dois rigoler là.
Oui, on n'est pas très nombreux à l'origine du projet. Bon, il y a de plus en plus de monde qui se greffe là-dessus. C'est vrai qu'on a reçu un très bon coup de main, notamment de Marc Robert, AXA. On a donc les étudiants qui commencent à venir nous prêter la main. Donc ça devient plus facile à gérer, on va dire.
Oui. Et puis les élus aussi qui sont derrière vous, la mairie entièrement.
Les élus,
Monsieur Larcher, Monsieur Poisson.
Monsieur Larcher, c'est la première personne que j'ai été trouvé, puisque je suis employé communal je sais qu'il est vétérinaire.
L'autorisation déjà.
Voilà, et puis il est vétérinaire, donc on s'est dit il y a de bonnes chances qu'il soit sensible au sujet. C'est vrai qu'il a très bien reçu le projet. On a eu un accueil chaleureux. Donc déjà avec le soutien de la mairie au départ, c'est vrai que ça facilite un peu les choses.
Et puis naturellement, on l'a dit, tout le monde en handisport. Est-ce que même ça dépasse le cadre de l'handisport dans les Yvelines? Est-ce que l'handisport sur l'île de France soutiendra aussi cette opération?
On n'en a pas trop cherché à étendre sur le département. Bon, on a sollicité Daniel Blanchet, donc, qui est au conseil général, qui est une figure du handicap à Rambouillet. Lui aussi, il nous donne un bon coup de main sur ce projet. Après, peut-être que lui, dans ses relations, fera savoir aux bonnes personnes la finalité de cette manifestation. Je pense qu'on aura effectivement un bon soutien du handicap régional, on va dire.
Très bien. Bertrand, vous restez avec nous, parce que vous voyez, ça passe très vite. C'est déjà la deuxième heure de Tribune Sport. On a parlé catch en première partie. On a donc commencé à parler de l'opération Handichien. On va continuer. Ensuite, il y aura le 4L Trophy. Puis, allez, comme on aura du coup un peu de temps, on parlera de foot en fin d'émission. Auparavant, le carillon de 10h. On y va.
Il est 10h, bon dimanche sur RVE.